Alors, pour situer ce que je suis, je vais présenter la commune où j'ai habité. Puis ensuite, je vais parler du conseil municipal de ma commune. Après, je parlerai un peu d'anecdotes et puis je vais revenir sur ce que tu as mis dedans, c'est-à-dire Madagascar au pays du foie gras. Alors, je suis partie dans le Gers en 2012. Avant, j'habitais à Boulogne-Billancourt et j'étais coordinatrice d'un réseau national d'associations de femmes à Paris. Et c'est comme ça d'ailleurs que on s'est connus avec Stéphane et puis Regard. Alors, j'habite dans une petite commune qui s'appelle Escornebœuf. C'est en Midi-Pyrénées. C'est entre Toulouse et Auch. Et c'est une commune qui a, au dernier recensement, on est 530 habitants. Il y a la mairie, on a une école avec 4 classes, CE1, CE2, CM1, CM2, avec 50 enfants. On a une cantine. Et c'est notre fierté parce qu'on l'a construite. Hein. Et on a 2 cantinières, donc les enfants ils vont à la cantine, ils mangent bien, très bien même. Et puis on a une salle des fêtes qui est mise à disposition de la population. On a un terrain de tennis. On a une église, mais sans curé. Évidemment. Et après, cette commune-là, elle fait 25 km carrés, donc assez étendue quand même. Alors, le nom d'Escornebœuf, il y a 3 hypothèses. Il y a beaucoup de vent chez nous, donc semble-t-il. Il y a tellement de vent que ça écorne même les bœufs. Voilà la première hypothèse. Deuxième, il y a beaucoup d'agriculteurs aussi, hein, c'est une commune rurale. Deuxième hypothèse, la forme de la commune elle-même, elle est un peu en forme de tête de bœuf. C'est une deuxième hypothèse. Et la troisième hypothèse, on me dit, en ce temps-là, il y avait un seigneur qui s'appelait à peu près, qui portait ce nom-là. Les habitants d'Escornebœuf, ce sont les Escornebeauvois, Escornebeauvoises. Il y avait un référendum d'ailleurs qui a été fait il y a quelques années de cela pour arrêter parce qu'il y avait deux noms proposés, Escornebeauvois ou Escornebeauvois. Donc on a choisi pour le deuxième. Alors, quoi vous dire, il n'y a rien. Voilà, dans la commune, hein, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas d'épicerie, il n'y a rien. Il faut faire 5 km pour trouver, entre guillemets, la civilisation. C'est à Gimont. Et à Gimont, il y a 3000 habitants où on peut tout trouver. Alors, comment on est arrivé à Escornebœuf? C'est le hasard des agences immobilières. D'habiter parce que mon mari, parce qu'on est deux dans l'histoire, moi et mon mari, a été muté sur Toulouse. Et c'était c'est ce hasard-là. On devait être un peu plus vers Toulouse, mais on a choisi le Gers parce que le Gers nous parle. Je vous dirai après pourquoi. Quand j'étais arrivée, il est vrai que. À Paris, on n'avait pas de voiture, hein, parce que c'est un budget. On était à Boulogne-Billancourt, on n'avait pas de parking, on n'a pas de garage, on avait un appartement pour aller travailler, on prenait les transports en commun, et puis si on a besoin de voiture, on loue. Arrivé là-bas, loin de tout, donc, il a fallu acheter une voiture pour mon mari travailler sur Toulouse. Et moi, j'étais bloquée parce que je n'avais pas mon permis, je n'avais pas de deuxième voiture. Et donc, du coup, j'étais obligée d'aller à l'hôtel. auto-école et de prendre des cours à 58 ans, mélangés avec des gamins qui pouvaient être mes petits-fils, hein, et tout ça. J'avais un peu la honte, comme disent les jeunes, mais heureusement que, par exemple, pour faire le code, je pouvais le faire par Internet à la maison. Donc, ça m'a soulagée. Puis après, j'ai quand même fait 40 heures de cours de conduite, ce qui était énorme. Dans le forfait, je crois que c'était 21 heures. Bon, moi, j'avais besoin de 40 heures. J'ai eu mon permis du premier coup quand même. Donc maintenant... Donc, je suis une jeune conductrice.
Et le A derrière encore.
Et le A derrière, oui. Donc, après, deuxième voiture, évidemment, parce qu'on en avait besoin. Hein. À la campagne, c'est vraiment nécessaire d'avoir une voiture parce que pour le transport, il n'y a pas Escornebœuf, il n'y a pas de bus. Les enfants, c'est le bus scolaire qui est mis à disposition par le conseil général, qui emmène les enfants à l'école et puis qui les ramène pas loin de chez eux. Donc, en termes de mobilité et tout ça, c'est un gros, gros, gros problème quand même à la campagne. Et alors, comment je suis arrivée dans le conseil municipal d'Escornebœuf? Donc, comme j'étais dans les associations à Paris, bien évidemment, arrivée là-bas pour ne pas être seule, je me suis d'abord présentée à Madame le maire parce qu'on a une femme maire. Et semble-t-il, par contre, cette démarche-là est assez exceptionnelle parce que les gens ne vont pas forcément à la mairie pour se présenter, quoi. Moi, il fallait que je fasse ça parce que je n'ai pas d'enfants en bas âge, donc du coup, je ne peux pas emmener les enfants à l'école, donc je n'ai pas cette proximité-là avec les gens à l'école ou les parents à l'école et tout. Donc, il a fallu que je me présente à Sergi, notre maire. Et ensuite, après, j'ai vu qu'il y avait une association sportive. Donc, je me suis inscrite. On fait de la gym, hein, une heure tous les lundis, mais ça a permis de faire connaissance avec quelques femmes et quelques hommes. Et après, le premier, pour pouvoir quand même être en relation avec les gens, il y avait l'organisation d'un repas. C'était la châtaigne, justement. Châtaigne et vin nouveau, c'était ça. Donc, c'était au mois de septembre. C'était le comité des fêtes de la commune qui l'organisait. Donc, voilà, c'était vraiment pour nous une manière de rencontrer tout le monde. Et il y avait un repas. Et puis, petit à petit, comme ça, on a commencé à connaître les gens. Et évidemment, nous, on est repérés comme le loup blanc. Parce qu'on était sur Escornebœuf, le seul couple, on va dire, un peu de couleur un peu foncée. Voilà. Et au moment des élections, de la constitution de la liste pour les élections municipales en 2014, donc Sergi m'a appelé en disant on te sollicite pour faire partie de la liste, de ma liste, parce que la liste doit être composée de 15 personnes. Alors je lui ai dit que de toute façon, nous, à Escornebœuf, peut-être qu'on y resterait, parce qu'on a fait une location, hein, à Escornebœuf, parce que c'était pour apprendre à vivre à la campagne, partie de Boulogne-Billancourt pour aller à la campagne, c'était quand même assez difficile, et puis il y a un apprentissage. On était en location. Donc je lui ai répondu que je peux peut-être accéder, mais sur Escornebœuf, je peux peut-être rester longtemps si on achète, ou alors si on décidait d'acheter autre chose ailleurs, hein, donc on va quitter. Elle m'a dit il n'y a pas de souci. J'ai accepté, et donc on a eu quelques réunions préparatoires pour le conseil, pour les élections. Et il y avait trois personnes qui sont venues la voir, une délégation de trois personnes, en disant que comment se fait-il qu'elle a sollicité des personnes étrangères à la commune. Alors, étrangères dans, dans tout le sens du terme, hein, parce que en fait, quand on était deux à être visés, il y a un mois, étrangère, donc à leurs yeux, parce que de cette couleur-là, parce que venant de Paris, parce que aussi n'habitant Escornebœuf que depuis un an et demi. Et il y a une autre personne qui est lui, il est policier municipal à Toulouse et il est là depuis depuis 2 ans, mais venant de Toulouse, quoi, pas d'Escornebœuf. Hein. Donc Sergine leur a dit de faire une autre liste à côté, si ça ne leur convient pas. Et puis,
qu'avant, il n'y avait pas une autre liste, il n'y avait qu'une
seule
liste.
Il n'y a qu'une seule liste, oui. Il n'y avait qu'une seule liste. Donc finalement, ils n'ont pas constitué une autre liste qui allait être notre concurrente. Lors des élections, un moment, donc au dépouillement, un détail quand même qui est assez important, c'est que parmi les personnes qui étaient voir Sergine, il y avait une personne dont le nom même vient de, à une consonance, s'il faut aller dans les préjugés, à une consonance Europe de l'Est. Voilà. Ses parents sont venus de Pologne, donc c'est quelqu'un qui n'est pas issu des Escornebœuf. Et puis, maintenant, à force de se côtoyer, maintenant, on s'entend bien. Alors, lors du dépouillement des élections, il y a un moment, parce que nous, donc les nouveaux qui étions sur la liste, on était en observateur, bien sûr. C'est l'ancien conseil municipal qui dépouillait. Et à un moment, je voyais tout le monde qui me regardait. Et en fin de compte, on m'a raconté que dans le bulletin, il y avait une carte d'une dame de trèfle. Et il y avait mon nom. Ils ont rayé tous les noms, les 14 noms des autres personnes, et mon nom, ils l'ont entouré comme ça. Voilà. Bon, évidemment, le bulletin, il était nul, hein, mais je ne sais pas ce que cela veut dire. En tout cas, c'était...
Il y a des sorciers dans le village.
Rabouta, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a été élus, moi j'étais élue à 88%, donc...
C'est un score honorable.
Le premier, il est élu à 98%. Hein, donc, donc je suis conseillère municipale. Dans l'équipe, on est 5 femmes et 10 hommes. On n'est pas tenu à la parité. Hein,
dans les petites communes.
Dans les petites communes, non.
Oui, mais chez nous, on fait.
Chez vous, ils ont fait.
Dans notre village, on fait. C'est 8 femmes et 7 hommes.
Oui. Et nous, on a 4 maires adjointes et je suis chargée de l'école. Voilà. On est, y a une maire adjointe qui chapeaute et puis après, y a moi. Alors pour l'école, c'était surtout sur le. En ce temps-là, on parle des rythmes scolaires, et même jusqu'à maintenant, je crois. À Escornebœuf, on a déjà mis en place en 2013, et donc c'est une continuité. Et moi, j'avais proposé les temps d'activité scolaire, en fin de compte, c'est après. L'école de 15h30 jusqu'à 16h30, il faut occuper les enfants primaires, hein. Je ne sais pas si en secondaire primaire, il faut occuper les enfants, donc c'est à la mairie d'organiser les activités. Donc on a non seulement la garderie qui est gratuite chez nous, dans d'autres petites communes elle est de 2 euros, chez nous on fait gratuitement. Et après, c'est le temps d'activité scolaire. On a les deux cantinières un moment. Elles sont aussi, elles interviennent aussi dans les activités et dans la garderie. Et moi, j'avais proposé de faire une correspondance scolaire avec une école à Madagascar. Et ça a été, on a commencé en octobre 2014. Et pendant un an, ça a bien fonctionné. Alors, bien évidemment, j'ai commencé par c'est plus la découverte d'une autre culture, hein, de Madagascar. Et parce que je voudrais travailler avec les enfants. Et puis, je fais un compte-rendu à chaque fois. Donc, c'est donné aux parents aussi. C'est de travailler sur ces préjugés-là où on pense que Madagascar, c'est un pays pauvre. Donc, rien là-bas, donc je vous montre quelque chose où les enfants ils sont souriants et qu'il y a plein de choses dans les écoles. Bon, certes, c'est une école privée à Madagascar, c'est une école où moi j'ai été, c'est une école catholique, donc il a fallu expliquer aux parents pourquoi avoir choisi une école privée. Donc, école privée parce que moi j'étais dans cette école-là, une école catholique, et parce que aussi en termes de connexion, les écoles publiques primaires à Madagascar n'ont pas beaucoup de moyens, quoi. Et comme je connais des associations d'anciens élèves et tout ça, donc ça permet aussi de faire le lien.
L'école est urbaine ou rurale ?
À Madagascar, elle est urbaine. Donc c'est ce urbain, rural, c'est dans une grande ville, hein, c'est une petite ville. Et privé, public, c'est de pouvoir travailler un peu sur tout ça, quoi. Et aussi, c'est que en termes, comme vous avez dit, en termes de connexion, évidemment, on ne correspond pas par Viber ou par Skype ou quelque chose comme ça, mais c'est plus une correspondance de groupe. On écrit quelque chose, puis après je cherche quelqu'un pour envoyer cela là-bas, les enfants écrivent, et puis de là-bas ils écrivent aussi, puis après on envoie. On n'utilise pas la poste parce que ça se perd, donc il faut qu'on trouve quelqu'un qui fasse le voyage pour le donner. Et ça a été très bien accepté. J'ai fait découvrir aux enfants la vanille, ils ne connaissent pas, avec les gousses de vanille. Je donnais après une gousse, par exemple, aux enfants, ils l'emmènent à la maison, les parents sont contents. Et puis, tout ce qu'il y a à Madagascar, hein, les Meuriens. J'ai commencé par, vous savez, je montrais la photo du film Madagascar, que les enfants aiment bien. Et après, je dis, voilà, on va deviner le nom du pays à partir de ça. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, on parle des Lémuriens, de ce qu'il y a à Madagascar. Et je fais un parallèle aussi sur ce qu'il y a sur Escornebœuf, les champs, qu'est-ce qu'on cultive sur Escornebœuf et dans les environs. Puis on en voit là-bas, et tout ça. Et les petits Escornebeauvois, en fin de compte, ils étaient très étonné de voir que dans l'école même, il y avait, donc dans l'école où j'étais à Tana, il y a une, à Madagascar, il y a une piscine, par exemple. Ils ont, ils ont de la chance, ils ont une piscine. Et voilà, voilà en gros. Donc maintenant, je continue cette correspondance scolaire avec Madagascar, parce que c'est dommage d'avoir initié une année et puis de ne pas continuer. Donc, l'année dernière, j'avais les CM1, CM2, et cette année, comme les CM2 sont partis au collège et le CM1, ils sont en CM2, donc je prends maintenant les CE2 et les CM1, voilà, pour changer un peu. Donc, je réactualise et tout, et puis quand ils sortent de l'atelier, ils disent « Oh, j'adore Madagascar !» Donc, il y en a qui disent qu'ils veulent aller là-bas et tout, voilà. Voilà à peu près ce qu'on fait sur Escornebœuf. Alors, dans notre conseil municipal, on a quand même 4 jeunes agriculteurs et un agriculteur qui est déjà à la retraite, avec une moyenne d'âge de 47 ans à peu près. Et en tant qu'élu, je fais partie aussi, c'est moi qui représente la commune d'Escornebœuf dans une association, un chantier d'insertion. En fait, c'est une régie rurale, qui est l'équivalent de régie de quartier ici. Et on travaille surtout, qui travaille surtout sur tout ce qui est espace vert, parce que là-bas, la voirie, espace vert, même si c'est la voirie, et sur la compétence du conseil général et surtout de la communauté de communes. Parce que là-bas aussi, on est regroupé en communauté de communes, c'est un peu ici comme l'agglomération, c'est ça?
Ça dépend, il y a plusieurs agglomérations, EPCI.
Et on est une trentaine de communes dans la communauté de communes. Et la communauté de communes a la compétence pour la voirie, le tourisme, l'action sociale et quoi d'autre, sur l'eau aussi, je crois, mais.
Il n'y a pas la santé?
C'est plus action sociale, pas la santé. La santé, je pense, après, c'est conseil général.
Non, les communes peuvent se doter, c'est compétence générale. Ouais. Une commune peut se dire que les problèmes de santé, en particulier la démographie médicale, peuvent s'en préoccuper.
Oui, je ne peux pas te répondre là-dessus. Alors les petites anecdotes. Moi je me souviens quand on était à Paris, on regardait la publicité à la télé, on parlait des parsines. Et parsines, c'est des petites. C'est apparemment des granulés qu'on met dans les fosses.
Ah oui, les parsines, oui.
Et moi, je posais la question, mais c'est quoi ça? Maintenant, je comprends, parce qu'il est vrai que chez nous, là-bas, on a des maisons individuelles, donc fosses septiques individuelles. Donc du coup, c'est parce qu'ici, c'est tout à l'égout, tandis que là-bas, c'est assez individuel. Il y avait ça, il y avait le problème, je me souviens aussi des facteurs qui râlaient parce qu'il a fallu. C'était les gens qui râlaient parce qu'il a fallu mettre les boîtes aux lettres à un certain niveau et tout ça. Et en fin de compte, ça servait pour les facteurs pour qu'ils puissent ne pas, quelquefois, sortir de leur voiture et juste glisser dans la boîte aux lettres. Et ça, c'est assez important aussi parce que les boîtes aux lettres doivent être posées au bord de la route départementale ou de la route communale, mais pas à côté de la maison, alors que quelquefois, la maison peut être assez loin de la route. Quoi. Et il y avait ça. Et puis aussi, je ne sais pas si chez vous, c'est comme ça aussi, ou quand on a... on veut déposer quelque chose, une lettre ou à poster. Donc on met une pince sur la boîte aux lettres et systématiquement le facteur, il sait que voilà, il y a quelque chose à récupérer dans cette boîte.
Nous, le facteur descend encore de la voiture.
C'est mieux pour sa santé quand même. C'est mieux pour sa santé. À Vitry, ils sont en vélo les postiers et ils sont en pleine forme.
Chez nous, pour faire à vélo, c'est chaud parce que c'est la route. On a une petite route départementale et les voitures coulent très vite, alors que c'est écrit partageons la route, mais bon, ça n'empêche pas. Et alors, enfin, resituer Madagascar dans le Gers. Je fais partie d'une association qui s'appelle Les Amis de Jean Laborde. Et Jean Laborde, en fin de compte, c'est un Gersois. Il est né à Auch et fils d'un charron, c'était dans les années 1800. Et ce monsieur-là, il est très connu des Malgaches parce qu'il a construit une cité industrielle. Il a fait connaître plein de choses, des usines à Madagascar, c'est lui aussi qui a construit le palais de la reine à Madagascar et tout. Donc tous les Malgaches connaissent Jean Laborde et dans le Gers, Jean Laborde n'est pas connu.
Et Jacqueline est allée voir les réalisations de la barre de Madagascar.
Oui. Mmh. Oui. Et donc, du coup, donc ce monsieur-là, il est parti à Madagascar et puis il est mort là-bas, il a son tombeau là-bas. Donc, on est en train avec l'association de faire des actions pour qu'il soit un peu plus connu. Et notamment, on est en train de faire un petit livret pour ça qu'on donnerait aux collégiens. Et là, dernièrement, on a fait un concert pour acheter des fournitures scolaires à une école à Montachou. Montachou, c'est à 60 km de Tananarive, de la capitale de Madagascar, où est le tombeau de Jean Laborde.
Donc, c'est une cité de villégiature, Montachou.
Oui.
Avec un barrage.
Oui.
Belle baraque là-bas.
Il y a de belles baraques.
Oui, oh là là.
Je me suis même mangé une fondue savoyarde dans le.
Il y a un restaurant suisse en petit.
Enfin, c'était il y a longtemps.
Mais il existe toujours. Voilà, donc. Essayer un peu de. Comme ça, on essaie de mettre un peu Madagascar dans le Gers.
Et ton expérience d'élu de la République?
Alors. C'est une vraie découverte. On a dans le conseil municipal, on est assez un groupe quand même assez soudé, parce que de toute façon ils sont plusieurs dans des partis politiques différents, mais dans le conseil on évite de parler de tout ça. Et on a un conseil où effectivement ça discute bien, où on aborde tout. Alors quelquefois les votes ne sont pas forcément démocratiques. Je pense que dans tous les conseils municipaux c'est un peu comme ça, plus un peu orienté quoi, mais selon les enjeux des escornes Beauvoir.
Est-ce qu'il y a des Front National
dans le conseil? Non, mais dans le village, dans la commune, oui, on les connaît. Et alors je me souviens que c'était au moment de le conseil les élections départementales là. On avait plusieurs listes des candidats, quoi. Et on essaie toujours de mettre au même niveau hein, les bulletins. Et à un moment, donc on était trois filles à faire la permanence. Et à un moment, avait un monsieur qu'on connaît bien qui arrive. Et il dit, non, je viens juste vérifier quelque chose. Et il va vers la table, il y a les listes. Et comme par hasard, la liste du Front National n'était pas là. C'était Aliou.
Louis Aliou.
Oui. La liste n'était pas là. On était étonnés. Il me dit, oui, mais comment se fait-il qu'il n'y a pas le Front National? On dit, mais si, d'autant que c'était cette liste-là, la première sur la table, quoi. Et en fin de compte, l'explication qu'on a trouvée, c'est qu'une personne, avant, a pris tous les bulletins et après a appelé ce monsieur-là. Et le monsieur, il est venu vérifier. Évidemment, nous, on n'a pas vraiment fait attention à tout ça, quoi. Donc, on a eu quand même un peu peur. On a remis la liste, bien sûr, mais on a eu un peu peur qu'il y aurait dénonciation et puis que le vote soit annulé et tout ça. Mais bon, ça s'est bien passé.
Et la proportion de Front National, parce que à Saint-Pierre-du-Mont, on est quand même à 35-40%. Hein.
Oui. Aux européennes, on a eu, je crois que c'est le Front National qui était en premier. Puis après, c'était divers droits, je crois.
Et dans le village, en Picardie,
42%.
Oui.
Et à Saint-Bernard,
23%.
Oui, donc c'est urbain, oui.
Il y a combien d'agriculteurs au conseil municipal?
Au conseil municipal, ils sont 5 donc.
Non, mais combien d'agriculteurs?
Là, je ne sais pas.
5 agriculteurs.
Je sais pas.
Quoi? 5 agriculteurs.
Dans le conseil, mais dans le village, je ne sais pas.
Mais les autres, ils sont quoi? Parce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a comme activité économique?
Alors, on a la proximité de Toulouse, donc Airbus. Donc, on a la TECOR sur Gimont, les avions et tout ça. On a beaucoup aussi des représentants sur les tracteurs, les engins agricoles. Et puis, après, on a le foie gras, essentiellement, avec Comtesse du Barry, c'est à Gimont. Duc de Gascogne, c'est à Gimont. C'est la même famille, hein. Qui après c'est scindé. Mmh. Et puis et là d'ailleurs justement il y a la comtesse du Barry qui est en train de licencier du monde et tout ça, donc il y a une grosse manifestation et tout sur Gimont étant à 5 km de l'Escorneuve.
D'accord. Alors, donc, la configuration socio-économique, quand même, c'est tout à fait lié à l'activité économique de proximité qui est Toulouse et Gimont.
Oui, oui.
Que, bon, à Saint-Pierre-du-Mont, c'est pas du tout ça. À Saint-Pierre-du-Mont, on est loin de tout, et c'est plutôt la ville qui exploite le rural, qui tire ses ressources du rural. Là, c'est la ville qui envoie quand même.
Oui, oui, oui. Et en fin de compte, Escorneuve, vu qu'on est à 40-50 km de Toulouse, donc bientôt c'est une proche pour
Toulouse. Non, 40 km, ça fait beaucoup.
Ah non, mais il y a l'île Jourdan qui est à 30 km de Toulouse où tous les pontes d'Airbus y habitent.
Oui, les pontes.
Pratiquement beaucoup de gens qui habitent l'île Jourdain travaillent sur Toulouse et Airbus. Donc c'est quoi? C'est à 30 minutes hein, de Toulouse. Ce n'est rien.
Il n'y a pas d'embouteillage?
Si, beaucoup d'embouteillage. On prend sur Paris. Et justement, même à l'île Jourdain, qui est, je pense, c'est une petite commune, c'est une commune un peu comme Gimont, si c'est pas un peu plus qui s'est étalé quand même. Le prix de mètre carré ça a explosé, quoi, parce qu'il y a beaucoup de cadres d'Airbus qui y habitent, évidemment, donc tout a augmenté. Ce qui fait que les gens, ils ont tendance après à aller un peu plus loin. Et à Escorneuve, nous, on a de nouveaux arrivants qui. Et on a des lotissements sur Escorneuve. Nous, on était dans un lotissement qui s'appelle Les Tilleuls. C'est dans le village. Hein. Et, mais avec de grands terrains quand même. Nous, on avait un terrain de 1700 m². On n'est pas les uns sur les autres. Mais tous travaillent. Sur Toulouse, beaucoup sur Auch, parce qu'il y a l'hôpital de Auch aussi qui est là. Et puis.
Et Madame le maire est d'une famille locale?
Alors, Madame le maire, c'est une étrangère, comme ils disent. Parce qu'elle, elle vient de la Creuse, et toujours considérée comme une étrangère. Et elle a.
C'est pas Paris, on connaît.
Oui. Et elle a une entreprise d'agroalimentaire sur Gimont. Elle habite Escorneuve, mais son usine est sur Gimont. Ça fait 35 ans qu'elle y est, mais quelquefois on lui rappelle qu'elle est d'ailleurs, quoi. Et c'est son deuxième mandat.
Moi, j'ai donc l'impression que c'est quand même un village assez accueillant dans l'ensemble.
Ben, alors, c'est ce qu'on nous dit, c'est que les Gersois, semble-t-il, hein, pas que vous allez, mais je pense que c'est trop généralisé de dire les Gersois. Mais à partir du moment où on va. Mais c'est à celui qui arrive, de toute façon, qui doit faire un pas. Mmh. Ensuite, en général, on est bien accepté, l'autre et pas vient.
Est-ce
aussi.
Que vous avez déjà été invité chez des habitants, en
oui.
dehors du conseil municipal?
Oui, oui, oui. Oui. Mais je me suis. On s'est fait aussi des amis, même. Donc, et là. Alors, entre-temps, depuis le 22 juillet, on a déménagé parce qu'on a enfin trouvé une maison. Et on s'est approché de Marciac, là où il y a le festival de jazz, parce que notre objectif, tout est au début, en quittant Boulogne Bianco, c'est de se rapprocher du festival. Voilà. Donc, Escornebœuf était un passage, on va dire, pour... Voilà, et là, on est à Tourdan, à 2 km de Marciac, et avec 99 habitants. et puis, on a une mère aussi, qui est une femme mère. Et là, pour l'instant, ben, je découvre, on a été au premier repas de la commune. Donc, et là, je crois que c'est un peu plus... flagrant par rapport à Escornebœuf où il y a vraiment des familles qui sont ancrées depuis des années, donc qui sont dans le conseil municipal ou maire qui transmettent ça de
père
de
père, un patrimoine
de père en fils. Oui. Donc, maintenant on va voir comment ça se passe, mais
c'est pas ça aussi, j'ai vous éloigné. Ils savent, les habitants de...
Des scores de place,
ouais.
Oula, tout se sait, par contre. Et il est vrai que tout ce que vous faites, tout le monde sait. Donc on a intérêt à filer droit, comme
et
comme
alors,
comme
c'est accepté
dit.
Le fait de votre éloignement et
alors,
de
c'est,
votre départ.
Ben, c'est accepté, je ne sais pas, mais en tout cas, j'y retourne une fois par mois pour le conseil municipal. Et j'y retourne une fois par mois aussi pour l'atelier que je fais avec les enfants. Alors, ce qu'il y a, c'est ce que j'ai dit à Stéphane. Bon, de 2015, encore ça va parce que je suis encore crédible parce que j'ai payé des impôts sur Escornebœuf. 2016, mais on m'a dit de ne pas démissionner, de rester.
Parce que quand on est élu, c'est pour le mandat qu'on
retarde,
même
mandat.
Si on s'en va, même
oui,
si on
oui,
va.
Oui, donc c'est jusqu'en 2020. Je suis moins crédible peut-être par rapport à d'autres élus, mais en tout cas, comme je continue à m'impliquer quand même avec les enfants, bon, ça devrait aller. Et puis quand je vais là-bas, j'essaie de voir un peu tout le monde. Et je regrette un peu quand même Escornebœuf, parce que là, refaire... cette démarche-là de 3 ans, penser rester à Escornebœuf 3 mois, on est resté 3 ans. Bon, on va voir.
Et donc, la population escornebeauvoise n'est pas du tout diversifiée
Dans le sens que tu sous-entends, non.
D'accord. Donc, tu étais la seule.
Je suis la seule. Alors, il y a une. Il y a une qui vient d'arriver, elle est camerounaise et bon, mariée par le biais des réseaux et agences matrimoniales. Tout ça parce que ça aussi, ça marche bien, semble-t-il, à la campagne. Hein.
Bah, il y a un agriculteur.
Il y a un agriculteur qui... Oui, il est agriculteur.
Bah ça marche bien parce qu'il ne trouve pas de femme. Hein, les jeunes, ça, c'est sûr. C'est
ils sont acculés.
À Saint-Pierre-du-Mont, c'est dramatique. Hein.
Donc, la dame a eu déjà des enfants. Et puis, là, je vois une petite qui est en CM2. Voilà.
Et elle est bien acceptée, cette dame?
Alors, on en a discuté au conseil municipal, il y a eu un soupçon de... j'en parle, hein,
bah oui,
de par intérêt et tout ça, mais bon, on va voir, hein, le temps, on verra, mais...
mais je alors après je sais pas si on l'a jamais vu venir dans les fêtes et tout ça, donc je sais pas.
Est-ce qu'elle y serait bien accueillie?
Ben, je pense que les gens ils ont eu déjà une première expérience avec moi, donc forcément je pense qu'ils auraient tendance à faire une comparaison. Donc j'imagine que...
Enfin, toi, tu viens en couple. T'es pas vu piquer un genre d'homme.
Oui. Mais n'empêche que je pense aussi qu'on a été bien acceptés parce qu'on est déjà à un certain âge.
Oui.
Aussi. Mais si on était jeune, je pense qu'il y aura beaucoup plus de suspicions. Mais par contre, j'ai...
À quel égard?
Mes jeunes dans le sens où pas 30 ans, 40 ans, mais 20, 25 ans, avec, on emmène tout ce qu'ils voient hein, à la télé et tout ça, quoi. Donc ils font un peu cette comparaison-là. Et d'ailleurs,
d'un autre dangereux, délinquant de la ville, etc.
Oui. Et d'ailleurs, maintenant, c'est bizarre parce qu'ici, à Paris, on est funaillé dans la masse, quoi. Arrivé là-bas, vous êtes malgache, quand il y avait le soleil, vous devez avoir l'habitude. Hein. Je dis, mais vous savez que la plus du temps que je vis sur la Terre, je le vis en France, quoi. À Madagascar. Donc, bizarrement, j'ai l'impression qu'on me remettait toujours que je venais de
l'assignation identitaire.
Tout le temps maintenant.
Et là, sur la photo, là, c'était en première ligne. Hein.
Oui,
c'est une volonté politique sur la photo du conseil municipal. C'est une volonté politique, à ton avis? De t'avoir mis en première
ligne. Non, ça n'a pas été calculé. Hein.
T'es prêt au sens.
Donc voilà, on a l'annuel des Corneboeuf une fois par mois où on essaie de mettre toutes les informations nécessaires.
C'est vrai que la binarité dont vous parliez se retrouve partout. Quand vous dites que vous venez du pays du soleil, je pensais au livre La cuisine au pays du soleil. C'est un best-seller, mais finalement ce livre, enfin, je ne sais plus s'il est best-seller encore, mais dans le temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement la cuisine au pays du soleil? Comme si en Bretagne ils n'avaient pas de soleil. Hein? Alors c'est la région la plus ensoleillée de France.
Donc en Bretagne, non, pas forcément. Pas forcément. Les statistiques ne vont pas dans ce sens.
Est-ce que vous avez l'impression que tout le travail que vous avez fait avec l'école a porté ses fruits et au niveau des enfants et au niveau des familles? Puisque c'était quand même une volonté d'échange, d'ouverture à l'autre. Hein,
oui. Bah, je pense que ça fait un an.
Oui, un an.
Donc, on n'a pas encore assez...
Je crois que ça a l'air plus.
Par contre, ce qu'il y a, c'est que pendant... Il y avait un cyclone à Madagascar, là, c'était cette année, l'année dernière.
Oui.
Et ben, on a fait appel aux dons pour aider Madagascar. Donc c'est surtout pour aider le personnel de l'école à Madagascar parce qu'ils étaient aussi sinistrés. Et on a demandé aux enfants s'ils pouvaient emmener, comme c'était l'hiver aussi et qu'il y a beaucoup de familles qui se retrouvaient dans des tentes. Donc on a demandé aux enfants s'ils pouvaient emmener un vêtement, toujours dans le cadre de la correspondance scolaire, un vêtement en manche longue pour un enfant là-bas. Et ben, on en a eu plein. Et c'était les parents, ils sont venus. Quoi.
Alors, cette question de solidarité, elle est soulignée aussi par Monique dans son milieu. Moi, je le vois aussi dans le petit village. Il y a quand même, en zone rurale, une très forte idée de la solidarité. Et qui est plus forte qu'en zone urbaine. Donc les télétons et autres, ça marche beaucoup mieux en zone rurale qu'en zone urbaine. Mm-hmm. C'est des choses.
Oui, il y a moins l'anonymat là.
Oui, mais J'étais avec une collègue la semaine dernière à Beyrouth qui me disait que dans le 20e arrondissement, ils se sont mobilisés pour l'accueil des migrants syriens. Et elle dit que ça a été absolument extraordinaire. Elle ne pouvait pas supposer que les gens seraient aussi sensibles, non seulement à la situation, mais à trouver les formes de solidarité et les réponses adaptées à ce type de situation.
Est-ce qu'il passait par des associations ou c'était...
Il y avait des associations, mais il y avait un grand mouvement individuel qui s'est retrouvé autour de la mairie, d'un certain nombre de choses comme ça. Si j'ai été étonné, on n'aurait pas vu ça dans la carte.
On a quand même des grands élans de solidarité. Pierre, en 54.
Donc, les schémas biminaires sont toujours délicats. Oui.
Mais pour revenir à l'interculturalité dans votre village, moi, je pense au nôtre, où on a... il n'y avait pas tellement un sentiment de méfiance, de peur, un petit peu qui met les barrières, mais là, quand même, plus peut-être un sentiment de domination quand un prêtre africain est venu via la messe, il n'a pas du tout été accepté, du tout accepté. On l'a compris d'autant plus qu'après celui qui lui a succédé, c'était, il avait du coup, il a pris des galons, pas possible. Et c'est intéressant, il n'a pas réussi, il n'y a pas eu d'intégration, j'aime pas ce mot, mais...
Alors dans les humeurs sur le site de Regard, je crois que c'est 2009, je raconte l'histoire d'un prêtre africain à Coursol-sur-Mer, justement à côté de Saint-Pierre-du-Mont, qui n'a pas pu obtenir son poste parce que le facteur cheval, pas le facteur, le prêtre cheval, je crois qu'il s'appelait, pas le facteur, était resté dans son poste alors qu'il avait été exclu par l'archevêque de Bayeux parce qu'il était intégriste et qu'il avait tous les mouvements et qu'il avait... Il avait réussi à susciter tout un mouvement de résistance pour lui et qu'il capitalisait sur le fait que son successeur allait être africain. Et il a fini par gagner puisqu'il est toujours en poste aujourd'hui. Donc j'ai mis ça sur le site si ça vous intéresse. Et cette question justement de l'origine des prêtres, une question importante. Alors moi ce que je voulais te poser c'est une question plus personnelle parce que toi ta petite entreprise, c'est de l'importation malgache.
Oui.
Est-ce que ça marche? Est-ce que ton investissement dans le conseil municipal a pu être...
Ça en mêle quelque chose?
Oui.
Moi, j'aime bien plasonner les choses et pas mélanger. C'est plus facile pour moi de gérer comme ça. Alors, il est vrai que quand on est parti, mon mari travaille à la Caisse d'épargne, au siège à Toulouse. Et moi, j'ai pu faire une rupture conventionnelle avec l'association avec qui j'étais. Parce que pour la paix des ménages, je l'ai suivi. Quoi. Et j'ai créé mon auto-entreprise qui est donc je suis commerçante, je vends des écharpes en soie de Madagascar. Des écharpes qui sont tissées main, je fais les modèles. Et je travaille avec une tisserande à Madagascar. Le tissage de la soie, c'est quand même un métier et un savoir-faire traditionnel là-bas. Quoi. Et je lui demande aussi de teindre les écharpes avec des colorants naturels. Et je travaille avec un transitaire pour tout ce qui est paperasserie administrative, douane, les taxes d'exportation et tout ça. Maintenant je commence à l'éteindre chez moi. Donc je commande des écharpes de couleur naturelle et puis je teins maintenant chez moi parce que j'avais suivi une formation de teinture naturelle. Et je vends dans des salons bio bien-être, pas au marché, parce que ce sont quand même des écharpes. Il faut que j'explique ma démarche, que c'est entièrement tissé main et c'est dans les salons avec des personnes qui sont plus ou moins sensibilisées, avec qui je peux discuter, échanger. C'est très important, c'est très enrichissant d'ailleurs parce que quelquefois je ne vends pas beaucoup, mais l'échange avec les gens sont toujours est toujours intéressant. Et puis, je n'en vis pas pour l'instant, quoi. Et justement, à Escornebœuf, cette année, on avait, le comité des fêtes avait organisé Escornaille. Parce qu'il y a beaucoup aussi, il y a 4 agriculteurs à Escornebœuf qui font de l'ail. Donc on a fait, c'était deuxième année cette année où on fait la promotion de cela. Et on m'a demandé de venir pour exposer et vendre éventuellement, mais j'ai pas voulu parce que ça me gêne d'être au conseil municipal et puis après de vendre ça, et puis c'est peut-être pas entre l'ail et ça, j'ai pas trop le lien, quoi. Donc non, mais sinon je vais dans d'autres salons, dans le Gers, dans le 31, dans le 65 en Haute-Pyrénées aussi, dans le 82 j'essaie de faire un peu ces départements voisins, dire, pour que je puisse faire des allers-retours pour rentrer chez moi, parce qu'il faut aussi que je minimise mes frais d'hébergement et tout ça. Donc là maintenant, je vais commencer au mois de novembre, je vais en Touraine et tout.
Là. Alors, est-ce que tu as pris goût à la vie politique locale?
La vie politique de chez moi, je dis toujours encore chez moi à Escornebœuf, parce qu'à Tourdain, je ne me le suis pas encore approprié, Tourdain, mais à Escornebœuf, oui, mais quelquefois c'est très compliqué, notamment le fait d'être dans une communauté de communes. Heureusement encore que nous, à Escornebœuf, on a fait le choix d'être indépendant, par exemple, vis-à-vis de l'école. C'est nous qui gérons notre école. Tandis que, il faut savoir que pour l'école, par exemple, on est en RPI. Ça veut dire qu'on est en regroupement pédagogique intercommunal. Il y a deux communes. Il y a Escornebœuf pour les CE1, CE2, CM1, CM2. Et il y a Tougette qui est juste à côté pour les maternelles et le CP. Et Tougette est dépendant de la communauté de communes pour la gestion de l'école. Nous, à Escornebœuf, on a pris la liberté d'être indépendante, et donc ça représente un certain coût, mais on l'a assumé, on l'a voté au conseil municipal, on l'a assumé. Et ce qui fait que, par exemple, la cantine, on a fait, donc c'était mandat d'avant, je crois, la construction de la cantine, ça représentait 450 000 euros hors taxes. Et donc, du coup, parce qu'il a fallu faire une cantine aux normes et tout ça, c'est un coût pour 50 enfants, mais en même temps, on pense aussi que ça permet aussi d'avoir d'autres enfants, que ça s'entretient, quoi. Et pour ces 450 000 hors taxes, par exemple, c'est un tiers de fonds propres, un tiers de subventions, et puis un tiers de prêts à taux zéro à la banque. Et pareil, on a agrandi une des classes, par exemple, et puis ce qu'il y a, c'est que évidemment, on a fait des demandes de subventions, puis on a bénéficier d'une queue de cerise, qu'on appelle ça, de notre député et tout, mais on n'avait pas besoin de demander l'aval ou la décision de la communauté de communes pour ça. Ce qui n'est pas le cas de Tougette, par exemple. Il y a de gros travaux à faire et puis ils sont obligés d'attendre comme ça.
Et donc, par contre, le
copinage. Donc du coup, nous, à Tougette, par exemple, le maire, il est vice-président du conseil général, donc PS, et puis il bénéficie de plein de choses, dont, par exemple, il a demandé pour l'école maternelle et CP des tablettes et des tableaux numériques. Nous, on n'en a pas. Ça coûte cher et On pensait qu'étant dans le même regroupement pédagogique, il pourrait penser à nous, et ben non. Donc on lui a dit, mais comment vous allez faire, hein? Parce que les enfants qui sont en CP et qui ont l'habitude de ça, arriver chez nous, ils n'auront pas. Donc il dit, mais oui, mais c'est une expérimentation, ce sera pas pour tout de suite. Enfin, donc il y a des choses comme ça qui sont très désagréables, mais bon.
Alors, le prolongement de ma question, c'est par rapport à ces choses désagréables et ces choses agréables, est-ce que tu vas t'investir à Tourdain ou l'intercommunale?
Alors, à Tourdain, non, je ne pense pas. Je pense pas parce que. Non.
Non.
En 2020, ben, j'ai le temps de voir, mais je ne pense pas. Pour l'instant, non. Et puis c'est tout frais encore. Hein.
Ouais.
C'était au mois de juillet. Et en même temps, et c'est là où j'étais pourtant pressée de quitter Escornebœuf, nous rapprocher de Marsac, mais on a notre maison à Tourdain en hauteur. Donc on a Marsac, on a les Pyrénées en face. Et on avait une tempête, je ne sais plus quand, il y a un mois de cela. J'ai vu ça. J'étais très nostalgique d'Escornebœuf. C'était comme ça, quoi. C'était gris, il y avait du vent, et puis il pleuvait, il faisait sombre.
Alors qu'Escornebœuf fait toujours soleil.
C'est ce que, apparemment, dans ma tête, oui.
Et je voulais poser une question sur le foie gras.
Oui.
Parce que comment est-ce que. Bon, à Madagascar, on produit du foie gras.
Oui.
Beaucoup de gens ne le savent pas.
Oui.
Et est-ce qu'il y a eu un lien justement avec. Puisque là, il y a beaucoup de foie gras aussi. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait justement autour du foie gras
entre Madagascar.
Madagascar et puis la région. Est-ce que vous-même avez abordé ça?
Non, je ne sais pas.
Ouais.
Alors, il est vrai que à Gimont, il y a ils appellent ça la grasse matinée. Et ça va commencer au mois d'octobre, là, jusque fin mars. C'est là où tous les éleveurs et gaveurs de foie gras vendent leur. Le canard, l'oie, les foie gras frais et tout ça. Et le foie frais, il coûte 34 euros le kilo. Donc c'est rien. Après, c'est vous-même qui faites votre conserve, qui le préparez et tout ça. Il y a des démonstrations. Et puis le canard, il coûte 13 euros. Un canard entier, 13 euros. Quoi. Après, ce sont des canards qui servent pour faire les confits, voilà. Et essentiellement. Et donc, du coup, par contre, je ne sais pas si c'est le fait d'être dans le conseil municipal ou pas, mais à chaque fois, moi, derrière mon portail, je trouve, si je ne suis pas là, je trouve de l'ail, je trouve des légumes, je trouve, on m'emmène des
anonymement.
Non, non, après on dit, j'ai des copines, et ça, il y a des gens qui le disent après, quoi. Mais quelquefois, on amène plein de choses comme ça, ce qui est toujours agréable.
Mais Marion, cette tradition du foie gras malgache, moi je ne connaissais pas, ça vient d'où?
Je sais pas, je pense qu'elle vient d'une importation française, mais c'est très. Moi j'ai été au printemps, là, et donc, une grosse production. Et,
c'est le fameux Laborde qui a.
Je ne sais pas du tout du très bon foie gras. Ouais. Les prix n'ont rien à voir avec les prix français.
Mais je pense que c'est
des foie gras,
c'est
foie vert, je ne sais pas.
C'est récent. Parce que moi, je me souviens
quand j'étais enfant. Il y a des canards partout. Donc, oui. Je pense qu'il y a aussi une utilisation, du coup, une technique qui a été promue, mais je ne sais pas par qui.
C'est peut-être un peu comme le vin. Hein.
Peut-être. Oh,
ça commence à venir aussi, non? Mais moi, quand j'étais enfant jusqu'à ce que je parte en France, j'ai jamais mangé de foie gras à Madagascar. Alors, est-ce que c'est.
Alors, est-ce que
ça reste un luxe aussi, hein,
oui,
de toute
oui.
façon.
Et puis, est-ce que c'est réservé justement pour. Dans certains magasins, dans certaines catégories de population, etc. Je ne sais pas du tout, hein, parce que moi, je n'ai pas du tout fait de travail dessus. C'était un constat.
Mais ça serait intéressant de
faire le lien.
De placer la
Mais peut-être qu'on va trouver à Noël du foie gras made in Madagascar.
Parce que, je sais pas, mais ça serait. Et en plus, comment est vu l'autre, justement? Parce que ramener du foie gras de Madagascar, par exemple à Gimont, je doute que ça soit bien vu. Sur l'envahissement, par exemple, je sais pas.
Déjà, on a des manifestations anti-gavage et tout ça, hein, à chaque fois. Donc,
Il faut le gras délocaliser aussi.
Oui, c'est ça, voilà. Ça serait aussi l'ouverture, peut-être.
Mais c'est ce que dénoncent d'ailleurs les éleveurs de canards, hein, les producteurs de foie gras, parce que Comtesse du Barry et Duc de Gascogne, ils font venir du foie gras essentiellement d'Europe de l'Est. Ouais. Donc,
ça a été dénoncé.
Par contre, on va peut-être faire du foie gras à la vanille.
Ben, il y en a,
Il y en a. Ou à l'auvert, il y a des nouvelles.
Alors, ici, je connais une ferme qui fait ça. Merci.
Donc, vraiment, j'ai l'impression, quand même, malgré tout, c'est un village ouvert.
Je pense que c'est un village ouvert.
Malgré les
40%. Après, on ne sait pas si. Oui, c'est ça. Malgré les 40%, il peut y avoir une coexistence entre des gens qui refusent l'extranéité ou l'étranger, ou sans le savoir, mais qui ont cette démarche ouverte.
Alors, les 40%, c'était aux Européennes, oui. Quand même.
Avec beaucoup d'abstention,
sinon,
j'imagine.
Avec vous. Ah non, chez nous, pas trop d'abstention, hein, quand même.
C'est plus grave, alors.
C'est plus grave, mais par contre, au départemental, non, c'était le PS, hein,
parce qu'à la Vitry, il y a eu 40% FN aux Européennes, mais 75% d'abstention.
Oui. Et au niveau catégorie sociale, niveau de vie, c'est un village qui est plutôt aisé. Ou mélangé.
Non, je pense que c'est mélangé parce que, par exemple, on a beaucoup de cadres, mais en même temps aussi beaucoup de personnes qui sont le service à la personne et tout ça. Et pour la cantine, par exemple, on a mis le coût à 2,30 €. Et il y a des parents qui ont des difficultés même pour ça. Donc après, on s'arrange, quoi. Et puis, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules dans leur maison. Donc là aussi, mais on les connaît tous. Mais en même temps, comme Escoeur de Bœuf est assez étalé, donc les maisons aussi sont quand même assez éloignées les unes des autres. Donc, obligé d'aller, c'est surtout notre mère qui essaie de visiter ces personnes-là. Et donc, quand il y a le plan canicule et tout, donc que chacun, on essaie de sensibiliser tout le monde en disant, ben, vous voyez, votre âme, quand tout le monde se connaît.
Mais donc le foncier étant quand même pas tout à fait abordable, vous n'avez pas tous ces afflux de population exclus des zones urbaines, comme on peut le voir dans les Pyrénées, comme on le voit à Coulommiers aussi, comme on voit les jeunes errants étant quand même très très ciblés sur les Pyrénées.
Oui, oui. Alors sur Escoeur de Bœuf, on n'a pas. Par contre, là, à côté de Marciac, autour d'Ain et tout ça, il y a une ville qui s'appelle Plaisance. Et là, effectivement, semble-t-il, il y a beaucoup de jeunes et d'autres personnes qui viennent. Parce que ça se sait, Plaisance étant une ville, je crois, où la population vieillissante, puis après, il n'y a rien qui attire, il n'y a pas de boulot et tout ça. Marciac, à part le jazz, après, il n'y a rien, quoi. Mais ça se sait que le loyer n'est pas cher, hein, et que dans le Gers, on vit quand même, c'est pas très cher, hein, on vit quand même assez bien, donc ça attire, il est vrai. Ouais, et donc beaucoup de personnes qui sont au RSA qui arrivent.
Parce que moi, c'est une question aussi par rapport justement à l'exclusion de l'autre, à la peur de l'autre. Cette peur aussi, je pense que comme beaucoup de gens, cet été j'ai traversé la France en voiture et je me suis dit quand même, voilà, beaucoup n'ont jamais vu des gens qui venaient d'ailleurs et ils ont peur en fait qu'on leur prenne cette vie qu'ils ont, qui est quand même pas mal. Et je pense que c'est ça aussi, en une certaine qualité de vie, même si on n'a pas beaucoup, bien sûr. Et du coup, cette peur qu'on nous enlève tout ça. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez là-bas par rapport à ceux justement qui voteraient vers les extrêmes. Parce qu'il n'y a pas de réalité. Hein, c'est vraiment quelque chose dans la tête, quoi. Hein, et dans les médias.
Dans les médias, en Normandie, moi je suis à 5 km d'un port de pêche. Il y a un Sénégalais qui était embauché sur les ports, sur le bateau, il est parti.
Ah oui.
Il est parti.
Il n'a pas pu rester.
Il n'a pas pu rester. Voilà. Mais ça, c'est la force des médias aussi. Hein.
Mais là, voilà, c'est-à-dire que, effectivement, il y a la fonction sociale. Hein. Bon, là, vous avez une entreprise et tout ça. Ça joue. Oui, mais ma petite entreprise, elle est là. Et ça joue beaucoup dans l'esprit des villageois, des autochtones et tout ça. Et je me demandais, est-ce que, par exemple, un village comme le vôtre, qui me donne l'impression d'être accueillant, est-ce que si, par exemple, il y avait, j'ai entendu ça à la radio dimanche dernier, un Rome embauché dans une scierie, hein, donc il y a quand même une fonction, etc., est-ce qu'il serait accepté avec ce pourcentage FN de potentiel ou virtuel?
Oui, mais même, est-ce qu'il y a des gens du voyage qui traversent la commune?
Il y a des gens du voyage qui traversent, qui traversent, et il y en a qui traversent et qui continuent leur route, et d'autres qui font des petits détours et qui se servent. Voilà, aussi. Parce qu'on a, alors évidemment, dans beaucoup de maisons, il y a beaucoup de granges et tout ça, où on entrepose tout, et c'est pas fermé, c'est ouvert au grand vent, donc et il arrive souvent qu'ils perdent des petits outils, pas les tondeuses, autotracteurs ou tout ça, non, mais c'est les tailles-haies et puis d'autres outillages.
Et pourquoi seraient les gens du voyage?
C'est ce qu'ils disent.
Ouais, moi j'ai grillé mes voleurs de pommes, je sais qui c'est mes voleurs de pommes, c'est rien avec du voyage. Ah, non, c'est des gens de Crilleville à côté, je les ai grillés. Ça.
Oui, non, il y a eu, parce qu'un moment après, il y en a eu tellement, et il y a eu deux fermes qui ont été vraiment cambriolées. Il y a eu une enquête des gendarmes, et on a eu aussi une réunion publique à Escornebœuf, et puis. Donc on sait qui c'était.
Les gendarmes les ont arrêtés.
Oui, oui. Oui.
Parce que mon...
Mais après, ça a continué.
Moi, quand j'étais cambriolé, c'était de Balleroy, c'était un couple qui est encore surendetté, enfin bref, qui s'est mis en insolvabilité, qui n'avait absolument rien à voir avec les gens du voyage.
Ah oui, mais c'est ce qu'on dit, c'est ce que disent aussi les gendarmes, hein. Méfiez-vous aussi de vos voisins, quoi. Et que, bah, semble-t-il, justement, les gens du voyage, ils ne voient jamais leurs voisins.
Mais par exemple, moi ça m'a frappé ce truc-là dimanche, j'ai entendu, c'était une école à France Inter.
Mais c'était
au cœur de la Lozère. C'est-à-dire, il fallait sauver l'école.
C'était des gens qui venaient de Marseille, de Gardanne à côté de
Voilà, c'est ça.
Mais là, il y a eu un travail, je connais bien, parce que moi, il y a eu un travail remarquable qui a été fait sur la commune.
Et par des gens localement.
Et localement, sur les deux communes, pour insérer une famille.
Et ils ont pris une famille. Il y avait des emplois que personne ne voulait, les indigènes ne voulaient pas. C'était ça. Il y avait cette scierie. Ils avaient besoin d'un emploi. Mmh. Alors, le gars était quand même présélectionné, c'était pas un type tout venant. Mmh. Et ils lui ont proposé cet emploi, et donc il est venu avec sa famille. Mmh. Et là, en l'occurrence, ça a à peu près marché. Et c'était, l'idée au départ, c'était sauver l'école.
Mmh. Mais il y avait un gros travail, très très gros, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de Gardanne qui a flotté de Marseille, en fait c'est Marseille, ou un maire qui a accueilli 10 familles roms. Il y a 4 ans, avec sous condition qu'il y ait une scolarisation, un travail. Donc il y a un travail de social au niveau des familles, etc. Et du coup, il y avait un collectif. Et là, c'est quand même le, il était quand même en ballotage, enfin, avec le FN. Voilà, hein, c'est, donc c'était pas du gagné, et il est quand même passé. Et donc, il y a un énorme travail donc, autour de cette commune. Et il dit, si tous les villages de France font ça, il n'y a pas de problème, on en fout. Et c'est pas simple, hein, parce que moi, je suis ce qu'ils font. C'est pas simple, parce qu'effectivement, c'est des gens du quart-monde, hein, des Roms, donc du quart-monde qui sont là. Et donc, un gros travail de réinsertion, donc cette famille, et puis il y en a 3 ou 4 autres qui ont déjà été logés, parce que le but c'était que ça soit temporaire. Donc ça fait déjà 3-4 ans, et le but c'est qu'au bout d'un moment, ils soient logés sur un ancien puits de mine, ils puissent, ça puisse être terminé à un moment donné. Mais il y a un remarquable travail qui commence quand même à circuler en disant que si c'est possible là, ça allait ailleurs. Mais, et non, dont notamment en Lozère, voilà.
Si vous avez
perdu, vous
n'avez
jamais vu
un étranger,
je crois.
Voilà.
Ouais. 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 Ouais.
Ouais. Ouais. C'était dimanche, j'ai entendu
ça. Oui, on commence à en parler. Ouais. Parce que maintenant, donc, en montrant qu'il y a des possibilités, ça c'est très français aussi d'être. De montrer toujours ce qui va mal, de jamais montrer les choses intéressantes. Puis au bout d'un moment, ça finit par sortir. Voilà. Et puis ça peut faire boule de neige.
Et aussi avec une vision. Pas à long terme, hein. C'est-à-dire que là, ils se sont dit, bon, peut-être qu'ils partiront, c'est comme vous qui partez de l'Escourneuf. Voilà, il n'y a pas cette condition de rester longtemps qui traumatise un peu tout le monde, finalement, de dire, vous venez là, pourquoi ? Moi-même, en tant que médecin, je me rappelle, il y a des gens qui m'ont dit, parce que je voyageais, ils disent, vous restez combien de temps pour me choisir ? Donc, moi-même, j'ai ce souvenir dans une situation professionnelle de carrière. Et là, dans cet exemple, les gens disaient, bon, de toute façon, il y a 50 ans, on a eu le même problème et l'école a continué.
Et là, ils sont venus en plus avec 4 enfants. Donc, c'était...
Oui, voilà.
Alors, notre démarche étonne tout le monde, parce que normalement, les gens, ils se rapprochent, en vieillissant, se rapprochent de la ville,
hein.
Nous, on s'en éloigne.
Et je voudrais dire à ce sujet, là peut-être je m'éloigne un peu, mais on dit maintenant que les jeunes médecins sont en train de veulent aller en ville pour profiter de la vie, etc. Et je ne suis pas si sûr que ça soit vrai. Je crois que pas mal de jeunes médecins commencent
à revenir
sur la terre parce qu'ils se disent finalement je suis un peu loin de la ville. Et puis quand j'ai envie d'aller au théâtre, j'ai une ville à 30 km, ça me va. Et puis il y a les conditions de préparation, de pont d'or, etc. Et donc là aussi, il y a des schémas qui disent, ouais, le gars, il veut aller qu'en ville. C'est pas si sûr. Hein. Je m'attends à ce que dans une dizaine d'années, le profil va changer.
Ouais, ça dépend où. Hein.
Et ça dépend où. Il n'y a pas de... Voilà,
dans le midi,
il faut pas que ça soit...
Dans le midi, oui. Mais en Normandie... Non.
À Marseille, par exemple, lors du festival de jazz,
on va créer un festival de jazz.
Jazz sous les pommiers, ça existe.
Hein. Oui,
à Coutances.
À Marseille, il y a 3 médecins, dont 2 qui vont partir à la retraite. Donc, ils ont profité du festival de jazz pour mettre un. Il y a un grand écran, quoi. Et puis, voilà, Martial a besoin de 2 médecins.
Ils ont trouvé ?
Ils ont trouvé ?
Non, pas pour l'instant.
Mais non, le problème des jeunes médecins, c'est qu'ils ne veulent pas s'installer en libéral. C'est
alors,
le
voilà,
problème.
Y a, ça, c'est voilà,
il y en a que
c'est, ça aussi,
10%.
C'est le travail en amont.
Ouais, il n'y en a que 10% qui s'installent
voilà,
en libéral.
C'est vrai que le libéral a
10%, oui. Ouais, tout le reste, c'est salarié ou... intérim.
Ça a complètement basculé.
Complètement, complètement.
Ouais,
ils ne veulent plus faire leurs 80 heures. Ah oui, certains, oui, ça, je travaille dessus.
Il
n'y
a peut-être pas juste le fait qu'ils ne
veulent
pas faire 80 heures.
Non, mais toutes les études le montrent, si, si, si. Si.
Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toutes les charges qu'ils ont écrites. C'est quand même plus facile de s'installer, de ne pas s'installer et d'être salarié aujourd'hui que de s'installer. Oui, c'est une réalité.
Oui. Ils ne m'engueulent pas. Hein.
Non, ils ne veulent pas travailler, il ne faut pas exagérer. Les gens qui sont pas là
quand tu fais des entretiens, toutes les enquêtes montrent ça. Et alors, je vais aller plus dans ce sens-là. Les enquêtes mettent en avant la féminisation des médecins.
Ils veulent toujours faire des enfants, ça c'est.
Ben voilà, et qui. Voilà, et
ça
qui...
c'est vrai.
Oui. Non, attends, c'est pas être aussi que faire des enfants, c'est qu'il y a des échéances. qui sont 4h30 la sortie de l'école.
Oui.
4h30, c'est 4h30, hein, voilà.
Bien sûr, ben oui, bien sûr. Donc le problème, il est largement partagé, et pas simplement rural ou urbain. Hein.
Oui. Par contre, pour les enfants, il est vrai que on n'a pas de centre de loisirs. Ce qui fait qu'il faut que les parents y trouvent un moyen de garde quand il n'y a pas école. Quand il y a école, il y a la garderie jusqu'à 18h30 chez nous. Mais sinon, le mercredi après-midi, il
n'y
a pas de crèche. Donc c'est les assistantes maternelles.
Mais en même temps, il y a des situations, c'est le semi-urbain et le semi-rural sont en train de converger. On n'est plus dans des situations d'opposition, mais dans des mixages.
Ça dépend. Là, effectivement, c'est une situation de mixage typique.
Chez moi aussi.
Chez moi, enfin, en Normandie, pas du tout.
Ouais.
On est trop éloigné de la ville.
On est trop près du
Brésil. Par exemple, j'ai un de mes neveux qui s'est installé à 20 km au sud d'Amiens, un médecin, un généraliste. Il ne chercherait absolument pas à quitter son poste, son village, etc. Il est parfaitement bien, il part chaque année.
Ça a évolué quand même. Le généraliste, maintenant, c'est plus le généraliste qui se lève à la nuit, qui arrive à n'importe quelle heure, tout de suite. Et j'en ai consulté un récemment, il m'a dit d'ailleurs, c'est terrible maintenant, les gens, systématiquement, ils ont un problème. Il se passe à lui, ils vont à l'hôpital.
Ils vont aux urgences.
Ils vont aux urgences.
Vous voyez,
oui. Non, mais ceux qui sont. Là, je parle de la carte rurale. Les gens qui habitent la campagne et qui envoient la ville est à 15 km, qui préfèrent aller tout de suite
Parce que de toute façon, les médecins ne se déplacent plus.
Les médecins ne se déplacent plus.
Mais pour être dans l'ambiance de la séance d'aujourd'hui, il y a un changement d'image qu'on peut percevoir. J'étais extrêmement frappé par le bulletin du Conseil de l'Ordre des médecins d'il y a 3 ou 4 mois, qui parle d'un jeune médecin qui est allé dans la Marne presque profonde et qui a pris la succession d'un médecin qui travaillait jusqu'à 11h du soir, et lui, il a dit non, moi je ne prends plus, etc. etc. Et il était interviewé, il expliquait pourquoi, et lui aussi, particularité, il est bien, bien noir. Et donc il a dit que quelque chose, toujours c'était dans ce bulletin du Conseil national, hein, donc c'est une revue très diffusée largement. Et il disait, oui, effectivement, j'ai eu des gens qui m'ont fait des remarques quand je refusais de les voir à 9h du soir, etc. Et il a dit, moi, ça s'est passé, d'autant que ma femme, elle est du coin, elle est blonde, tout ça. Donc, je veux dire, si le bulletin a publié un tel témoignage, c'est qu'il y a des images qui changent.
Oui, ça, c'est sûr.
Il y a une présentation des choses.
Oui.
J'imagine pas qu'il y a 20 ou 30 ans, on aurait fait un article comme ça.
Oui. Mais il y a 20 ou 30 ans, Coffigny Agnam était élu maire de son village et citoyen breton de l'année. Quand même.
Oui, mais c'est un feu de paille.
C'est, pardon ?
Oui.
C'était un feu de paille.
Oui.
Oui. Enfin, je sais pas.
Bon. Si on parlait un petit peu de la prochaine.
La prochaine, ce serait quand d'abord ?
Est-ce que vous seriez. Est-ce que vous seriez d'accord pour Parce que moi, il va falloir que je prenne je fasse les réservations de salle avec un système de réservation
qui
fonctionne de plus en plus. Hein.
Bon, là, on a la salle au moins, ça c'est bien.
Là, on a eu
une salle.
Mais il fallait quand même la raccrocher. Hein. Bon, on pourrait. Le rythme de 3 réunions par an vous convient.
Moi, je
pas trop.
Partir après être arrivé en retard, je suis
désolée. Non, non,
vas-y. Stéphane m'avait proposé de venir à un voyage privé parce que je suis dans le sud essentiellement. Je suis dans un temps sur Paris.
Mais peut-être tu peux dire deux mots.
Oui, je peux dire deux mots. Oui, moi, je suis médecin et anthropologue. En fait, je
Il y a trop longtemps.
Voilà. Et moi, j'ai travaillé beaucoup en PNL, sur la dernière sortie, et puis depuis 10 ans, je fais essentiellement de la formation continue et puis des recherches, mais ici en France, surtout ce qui est petite enfance, crèche, prévention précoce, etc. Là, la dernière fois, j'avais parlé du bouquin que j'ai fait sur une grande pédopsychiatre, Myriam David, pour recueillir ses textes. Donc, voilà, donc là j'ai fait un recueil de ce texte pour rassembler son œuvre et pour montrer en quoi elle est très très contemporaine, donc ça fonctionne très bien la diffusion. Et voilà, donc je suis là-dedans, donc je fais beaucoup de formations, notamment l'interculturelle avec des professionnels de santé, des assistants sociaux, etc. Donc je manie, parce que ça m'intéressait beaucoup aussi, je manie ces concepts avec la plus grande prudence. Parce qu'avec des gens qui sont très loin de ça, souvent ils veulent quelque chose de plaqué. Donc on fait des formations en petits groupes. C'est assez passionnant. Hein. En fait, il y a pour certaines personnes, on va peut-être faire un petit article dessus, parce que pour certaines personnes, ça leur a changé complètement leur façon de travailler, leur représentation de l'autre. Et des gens qui travaillent un peu partout, notamment dans le rural. Hein. Beaucoup de professionnels de PMI et qui vont dans du rural profond, dans lequel il y a encore des coutumes très, très dans les pensées. Qui n'existait plus hein, sur les soins aux bébés, etc. Et où on a voilà, des représentations de l'autre, des peurs qui sont assez injustifiées, mais là, avec notamment actuellement beaucoup de cadavres de centres d'accueil des exilés dans des communes rurales. Alors là, les gens n'ont pas de moyens de transport, rien du tout. Et ils ont donc pas de moyens de langue, pas d'interprète. Et donc là, les professionnels de PMI vont. Donc là, on a beaucoup travaillé notamment là-dessus, sur l'interprétariat, sur. Travailler avec eux et voilà, je suis dans cette dimension.
Ben, merci beaucoup.
Ben, voilà, donc parfois tu m'informes toujours et si je peux venir, c'est volontiers. Parce que,
merci, peut-être qu'on fera un samedi sur la petite enfance.
Oui,
si tu veux. Un week-end où tu es à Paris.
Oui, ben voilà, tu me demandes et puis on bloque. Volontiers. Mais vous êtes où, non je suis à Aix-en-Provence. Mais je suis assez souvent à Paris, hein, mais je suis de bloquer à l'avance, il n'y a pas de problème.
Merci Marie-Laure, merci.
À
bientôt, au revoir. Ou alors trois fois par an, je pense que c'est difficile de faire plus. Hein.
Non, mais je pense que non, on est passé de 2 à 3 et on se stabilise actuellement à 3 et je trouve que c'est bien. Alors, quand on regarde les dates avec les problèmes des vacances. En principe, c'est février-mars, hein, notre prochaine rencontre.
Oui.
Et je regarde sur 2016 et les différents types de vacances s'arrêtent au 6 mars. Donc si nous, on faisait au 12, on serait à peu près assuré que personne n'est bloqué par des vacances des enfants.
C'est très bien.
Moi, j'ai un colloque qui est le 12.
Comment ?
Le
12 ? Quoi?
Le vendredi, on a un peu de
mettre
dessus. Je crois
qu'il y a des trucs,
je
ne
sais pas si un jour ou deux. Autour de cette date-là, c'est quelque chose.
On peut aller au 19. Hein.
Oui, ça serait plus sûr.
Si ça dérange personne.
Il n'y a pas de vacances. Non, mais mars.
C'est justement entre les vacances.
Ouais. Oui. Toutes les vacances s'arrêtent au 10. Hein.
Donc on fait le 19. Hein.
Oui, 19.
Très bien.